Il y a des formations aussi que, tu sais, c'est des formations moins dispendieuses que les, pas les résultats, mais les, ben, la promesse, finalement, c'est pas de changer ta vie, mais, tu sais, plus d'apprendre comment utiliser Pinterest. Tu n'as pas nécessairement besoin de prendre 50% de ton horaire, là, tu sais. Mais il y a des grosses formations comme la mienne, la méthode bêta, qui va te prendre beaucoup d'heures. Parce que, veux pas, une formation en ligne, c'est une nouvelle source de revenus, c'est un nouveau pilier dans ta business. C'est quelque chose qui est massif, là, tu sais. Fait que, surtout dans ces formations-là qui sont des. Qui promettent un gros changement, engage-toi. Mais je ne vais pas chercher juste la motivation là-dedans. Là. Même les gens dans le groupe, les gens dans le groupe peuvent t'aider avec la motivation. La coach peut t'aider avec la motivation. Mais en tant que client, ta responsabilité, c'est de t'auto-motiver puis d'appliquer le contenu.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 65. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre créativité est à fond, j'espère que vous avez de la motivation et que les affaires ou le travail ou la famille ou peu importe où vous en êtes, va bien. Aujourd'hui, épisode entrevue avec une experte, avec... c'est toutes des expertes, je pense que j'invite ici, mais... avec une femme, une entrepreneuse que j'admire beaucoup, qui est déjà venue sur l'ambition au féminin, et j'ai nommé Geneviève Gauvin. Geneviève qu'on connaît, si vous êtes sur Instagram, vous la suivez peut-être, si vous la suivez pas, elle a des stories toujours très entertaining, et maintenant qu'elle s'est mise aux Reels, je pense que, en tout cas, j'ai beaucoup de respect. Respect pour, pour les gens qui font des Reels, parce que sérieux, je trouve ça... je trouve pas ça évident d'avoir des idées pour faire ce genre de contenu vidéo, là. Bref, aujourd'hui, Geneviève, elle vient sur l'épisode pour nous parler de, justement, sa plus grande expertise qui est la formation en ligne. Et surtout, étant donné qu'elle a beaucoup d'expérience à accompagner les gens à en créer, j'ai voulu lui poser des questions sur, premièrement, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand est-ce et comment on peut... commencer à penser à intégrer ce genre de modèle-là, ce genre de produit-là dans notre offre de service, mais aussi en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui fait une bonne formation en ligne? Comment on peut choisir une bonne formation en ligne? Est-ce qu'on devrait faire confiance à... Comment savoir à qui faire confiance en tant qu'expert? Et bref, j'ai vraiment voulu parler des deux côtés de la médaille pour pouvoir avoir un aperçu, dans le fond, de, selon elle, qui voit beaucoup de ces formations qui sont créées dans ses cohortes à elle, qu'est-ce qui vraiment va différencier une bonne formation en ligne de quelque chose qui va peut-être avoir été faite pour, je dirais pas les mauvaises raisons, mais pas nécessairement pour servir au mieux son public. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, je vais quand même vous faire une petite bio de Geneviève. Donc, Geneviève est spécialiste de la business essentialiste. On en parle un peu dans l'épisode, là, si vous voulez savoir comment qu'elle perçoit ça, la business essentialiste. Et elle va t'aider, dans le fond, sa mission, c'est de t'aider à générer des revenus exponentiels avec les formations en ligne. Et son approche unique focus sur le minimalisme en affaires pour éliminer tout ce qui te distrait de tes objectifs en misant seulement sur l'essentiel. Beau résumé de business essentialiste. Geneviève est en affaires sur le web depuis 2013. Puis je vais vous mettre les liens aussi vers le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble où elle parlait beaucoup genre de la genèse de son entreprise en ligne, des choses comme ça. Et elle utilise la force des infoproduits, de l'affiliation et du marketing par courriel pour optimiser son temps libre et maximiser son impact. Geneviève est l'animatrice du podcast Les Vraies Affaires, qui cumule plus de 140 000 downloads et 142 reviews 5 étoiles. Et elle est aussi la créatrice des formations La Méthode Bêta et Marketing Affilié Édition Créateur. Geneviève, dans un contexte non pandémique, est une digitale nomade. Donc, 6 mois par année, elle se retrouve dans un petit café de Villeray ou quelque part en Thaïlande, au Vietnam ou au Japon. Et ce qui tombe vraiment bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, Geneviève lance son fameux bundle de formation signature Catching. Si vous en faisiez partie l'année passée, vous saurez qu'elle avait eu la merveilleuse idée de réunir, je pense l'année passée on était 14, mais 14 experts de la business en ligne, dont moi, pour offrir des formations dans une espèce de bundle. Un bundle, c'est plus comme un paquet, un regroupement de formations pour un prix absolument ridiculement bas. C'est le même prix cette année, 197 $. Et pour ce petit prix-là, ben vous avez des formations d'expertes allant des concours Facebook, la productivité, Notion, que j'adore, que je vais bientôt vous parler sur le podcast, l'optimisation de ses lancements en mieux connaissant son cycle menstruel, etc. Fait qu'il y a vraiment genre une belle fourchette d'experts. Et moi, dans ce bundle-là, je vous offre ma formation Bloguer plus, Bloguer mieux, dans laquelle c'est vraiment, bon, toutes mes connaissances en rédaction web qui viennent autant genre de mon background de rédactrice et de mon expérience, dans le fond, à travailler au niveau de la création du site web. Donc, si vous voulez vous procurer le bundle, vous avez jusqu'à vendredi le 19 février à mtamarque.com/catching. Je vous mets le lien. C'est le seul moment dans l'année où vous allez pouvoir vous procurer ce bundle-là. Sinon, ça va aller probablement à l'année prochaine, si Geneviève le refait. C'est ça. Je vous invite à aller regarder ça, regarder les formations qui sont incluses, puis pas manquer votre chance si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, je vous laisse avec Geneviève, je vous laisse écouter ça par rapport à tout ce qui est formation. Je serais curieuse de savoir si vous aviez déjà pensé à lancer une formation ou vous en avez déjà une. Ça a été quoi votre expérience? Est-ce que vous avez de la misère parfois à bien choisir les formations? Et si vous comptez en créer une, est-ce que vous avez reconnu certains blocages peut-être dont on a parlé dans l'épisode? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et bonne écoute! Salut Geneviève! Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur l'ambition au féminin.
Ben, ça va super bien. Remercie, en fait, parce que c'est ma deuxième fois, là, je trouve que je suis VIP.
Ouais, c'est ta deuxième fois, puis en plus, le premier épisode, il était sur deux épisodes, c'était vraiment à propos de ta vie, puis genre, tout ce que, comment t'en étais rendu là où t'es rendu il y a un an, parce que là, maintenant, t'es encore plus loin que là, là où on était quand on s'est passé. Je pense que ça fait déjà un an, ça fait au moins un an.
Hey, 2020 a passé vite, hein? Et là là!
Ouais, quand on est occupé, hein. C'est puis, non, je suis contente de te revoir sur l'ambition féminine parce qu'aujourd'hui, tu sais, on va vraiment plus parler de ton expertise qui est naturellement le monde des formations en ligne, yes. Le monde de tout ce qui est genre le produit passif. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux vraiment qu'on discute ensemble, c'est toutes les nuances qu'il y a autour de la formation en ligne et du produit passif parce que je pense que tu es vraiment un bel exemple de quelqu'un qui est très transparent et très ouvert à propos de ce que c'est et ce que c'est pas ce genre de modèle d'affaires.
Ben merci. La transparence, ça fait clairement partie de mes valeurs centrales à ma business, à moi aussi, là, je pense. Je pense que... Puis c'est le commentaire que je reçois le plus aussi de « Hey, merci de partager tout, ça m'inspire. » De oui, aller plus loin, mais aussi de pas me sentir mal que je suis en arrière ou que, tu sais, je prends du temps pour moi ou ce genre de choses-là parce que, ben c'est ça, je partage les hauts puis les bas, fait que je suis contente que finalement que ça paraisse, t'sais.
Ouais, absolument, absolument. Puis tu sais, je veux dire, même ici au Québec, là, on dirait qu'on voit souvent les Américains comme les exemples de ceux qui ont fait le chemin pour nous, mais je trouve ça le fun que il y ait justement, encore une fois, de la nuance dans ce qu'on va apporter parce que on n'est pas... Tu sais, je trouve que souvent, comment ça va être montrer du côté peut-être américain, c'est un petit peu plus agressif, c'est un petit peu plus dans ta face. Oui. Puis, ce que j'aime aussi avec la façon dont tu approches tout ça, c'est que, tu sais, veux pas, on garde aussi notre identité et notre sensibilité à travers tout ça pour créer vraiment une business qui est le mot que t'aimes, ben le mot qui te représente, essentialiste.
Oui,
et peut-être
oui.
qu'on pourrait commencer avec ça, juste pour contextualiser un peu pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une business essentialiste? Puis comment t'en es arrivé avec le modèle formation en ligne comme ton modèle préféré, dans le fond?
Ben, en fait, je te dirais que c'est en sachant plus qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis c'est un peu ça, l'essentialisme aussi. C'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. C'est un beau livre que je recommande à tout le monde, de Greg McKeown, qui est Essentialism, essentialisme, finalement, en français, que je... T'entends, je faisais du coaching, je l'achetais à tous mes clients, puis je suis comme, OK, mais achetez-le, lisez-le, tu sais. Si j'ai quelques livres comme ça, là, que c'est comme les piliers de la business, ça en fait partie. L'essentialisme, en bout de ligne, puis pour faire ça extrêmement simple, parce qu'on s'entend, c'est le livre au complet qui explique le concept, c'est vraiment juste de trouver c'est quoi notre essentiel, puis faire juste qu'est-ce qui supporte ça. Bon. Mm-hmm. Fait qu'on va garder ça simple comme ça. Mais fait que c'est un peu comme ça que j'ai bâti ma propre business. Puis écoute, ça fait un bout là, que je suis en affaires. Toute l'histoire au complet est dans les derniers épisodes qu'on avait fait ensemble. Mais tu sais, moi, j'ai commencé en 2013 officiellement, non officiellement, genre en 2012, 11, pas tant de quelque chose comme ça, mais enregistré, disons, depuis 2013. Puis j'ai fait mon école des infoproduits aux US aussi, là, tu sais. Mm-hmm. Moi, ma première formation que j'ai suivie, c'était la B School de Mary Forleo. Dans le temps, c'était, bien, en fait, je pense que c'est encore ça, sinon plus. C'est 2 000 $ d'investissement, la grosse affaire. Tu sais, c'est comme, c'est big, là. Tu sais, tu te crois, tu te prends au sérieux à ce moment-là. Là. T'es comme, OK, go, on se lance en ligne. Même que j'avais demandé à mon père d'échanger l'argent pour ma maîtrise puis faire ça à la place. J'étais comme, non, je veux plus faire ma maîtrise, je veux faire ça pour moi. T'es comme, t'es-tu sérieuse? Bref, dans tous les cas, j'ai commencé là à comprendre c'est quoi les formations en ligne. C'était vraiment ma première initiation à ça. J'en ai consommé d'autres par la suite pour apprendre les Facebook Ads, pour apprendre les webinars, je pense à des formations de Amy Porterfield que je prenais en temps. Fait que moi-même, j'ai commencé à en consommer. Puis, à ce moment-là, on créait avec mon chum un e-book. Fait que c'est pas une formation en ligne, mais ça rentre dans la catégorie infoproduit où on vend de l'information, on vend de l'expertise, on vend de l'éducation finalement. Donc, on sait quelque chose, on le vend packagé, puis c'est un peu ça, un infoproduit, tu sais. Donc, ça fait vraiment un bout que je baigne dans cet univers-là. Puis, un moment donné, en 2013, on arrive à Montréal. On était à Sherbrooke préalablement. Puis, il y a un dude australien qui contacte mon chum. Puis, qui dit « Hey, je suis à Montréal. Je vois que tu es à Montréal. C'est écrit dans le bas de ton infolettre. ça tente-tu qu'on se rencontre? On fait la même chose dans la vie. Puis, je vends des infoproduits. Puis, attends. » Puis, on est comme « OK, fine. » On se rencontre dans un petit café de la petite Italie. Puis, on l'attend pendant 1 heure. Il est vraiment en retard. Puis, il est vraiment YOLO, là, tu sais. Puis, on était comme « OK, ben ça suffit. » Puis, 1 heure plus tard, on s'en va dans un... En tout cas, c'est pas pertinent. Dans tous les cas, finalement, il se pointe. Puis, on finit par jaser. Puis, il dit « Ah, vous êtes vraiment dans une bonne position. » Parce que là, on vient de faire un lancement du e-book de mon chum. On fait plein d'argent. On roule sur l'or, là, parce que, genre, on s'est fait aider par des affiliés qui avaient des listes monstres. Bref, il nous dit « Vous êtes vraiment dans une bonne position en ce moment. Vous me dites que vous aimez full le voyage. Pourquoi vous ne voyagez pas? » Puis là, on n'avait pas de réponse. On était juste « Ben, je ne suis pas là, on est allé dans le sud, mais c'est vrai, tu as raison. » Je me rappelle qu'à l'époque, on planifiait un trip en Europe, mais tu sais, ça se poussait tout le temps. Puis c'était un voyage, c'était du tourisme, tu sais. Puis lui, il nous parlait qu'il allait vivre à Bangkok, puis à Chiang Mai, en Thaïlande. Puis il était genre « Ouh, c'est bien exotique, la Thaïlande, tu sais. » Fait qu'on n'avait jamais vraiment rien fait, puis il dit « Écoutez, moi, je vous invite, là, n'importe quand ça vous tente, venez passer du temps chez nous en Australie. Je reviens, moi, pendant votre hiver, nous autres, c'est notre été. Fait que venez passer du temps chez nous, on vous héberge, puis that's it, t'sais. » J'étais genre « OK, mais là, on en discute. » Puis toi, c'est vrai, mais on est dans une bonne position. On n'a pas besoin d'être n'importe où sur la planète, t'sais. On peut travailler de n'importe où. Moi, mon bureau, c'est mon ordi, tu sais. Fait que finalement, on recontacte le dude, puis on fait comme « Ben, sais-tu quoi, dude, que ça fait vraiment pas longtemps qu'on se connaît? Ouais, je vais prendre ton offre, puis on va s'en aller en Australie, tu sais. » On est allé là 3 semaines. On s'est promené entre Sydney, qui était à la maison chez ses parents, entre Fingal Bay, qui est un petit peu plus au sud. Puis on a fait comme « Oh my God! » Pourquoi est-ce qu'on resterait au Québec? Surtout l'hiver. Fait qu'on est devenus un peu les snowbirds, mais à l'année, dans le sens où c'était comme, OK, mais on peut partir, let's go. Fait que c'est devenu une espèce d'addiction, littéralement. Puis la business est venue supporter ça tout le temps. On n'a jamais vraiment fait... En fait, mon chum lui-même n'a jamais fait de coaching. Depuis qu'on est en ligne, il vend que des infoproduits sous forme de e-book, de formation, that's it. Je me suis trempé les orteils dans le coaching à travers le temps, mais très peu, pour en revenir finalement aux infoproduits, les formations en ligne, parce que ça me permet ça. Puis ça me permet aussi de non seulement être indépendante d'un endroit sur la planète, mais plus que ça, c'est de prendre le contrôle de mon horaire au grand complet. Parce que quand on fait du coaching en one-on-one, ben, veux, veux pas, ça prend de l'espace dans un horaire. Ça prend, mettons que tu fais une heure, ben, ça prend une heure. Tu peux pas rien faire d'autre dans cette une heure-là. T'es vraiment 100% avec ton client. Puis c'est correct, on veut donner cette énergie-là. Moi, personnellement, quand j'en fais même plus qu'un, ça me draine parce que je donne beaucoup. Puis après ça, j'ai de la misère à travailler, j'ai de la misère à réembarquer, puis c'est pas ça que je veux faire. J'aime ça être dans des gros projets, comme des gros lancements, mais ça, c'est des affaires de prod. Enfin, tu peux le faire aussi avec du coaching, mais des fois, c'est une limite d'heure aussi. Tu peux pas en donner plus que ce que ton horaire est rempli. Puis, à un moment donné, j'ai eu un kid en 2018, puis là, ben on voulait pas l'envoyer à la garderie. Initialement, on était comme, on va le garder à la maison. Puis ça, ça a été... Wow! Pourquoi? Ben, c'est parce que ça fait en sorte qu'il faut que quelqu'un s'en occupe la moitié du temps, si on veut travailler à peu près égal, moi puis mon chum, parce qu'on a la même business. Fait que ça veut dire que je me suis mis une limite de à peu près 15 heures par semaine. Officiellement, 15 heures par semaine. Des fois, ça déborde un peu. Des fois, quand il dort, on en profite un petit peu pour une couple d'heures, mais c'est rare que ça dépasse 22 heures par semaine. T'sais, c'est le gros max. En lancement, des fois, ça stretch un peu, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'avec le petit, ça nous a forcé à encore plus être strict et dire non à des projets non essentiels. Et ça revient à ta question, c'est quoi l'essentialisme? C'est ça, c'est de me dire, qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux voyager, je veux la liberté, je veux que le 50% de mon horaire soit à m'occuper de mon petit, à quand je suis, à aller au Japon, n'importe quoi. Puis le reste, cette business-là qui va juste supporter ça. Donc, j'ai trouvé mon essentiel, puis j'ai bâti quelque chose qui supporte ma vie, pas le contraire.
Je veux juste souligner à quel point c'est vraiment cool qu'il y a eu comme un espèce de génie australien qui est arrivé dans ta vie.
Ouais, c'est
vraiment qui a comme changé le cours, genre, de ton existence.
Écoute,
je trouve ça vraiment génial.
Ça fait 7 ans, 8 ans là, qu'on est en affaire avec mon chum, presque. Puis on fait encore le running gag du dude. Je me rappelle, le casting, j'ai une photo, si tu scrolles vraiment loin dans mon Instagram. Puis il y a juste... Oh, non, c'est même plus sur Instagram. Anyway... Puis c'est l'espèce de running gag de lui avec son accent australien que je suis incapable d'imiter. Puis il dit « You're such in a good position », genre. mais ça a tellement résonné, puis on était juste genre « J'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'on voyage pas? Pourquoi est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qu'on veut dans la vie, tu sais? » Fait qu'on on a fait qu'est-ce qu'on voulait dans la vie, tu sais. Merci à Mick.
Merci Mick pour avoir créé l'Empire Geneviève Gauvin unique. Ce qui mène quand même à une question importante, parce que tu sais, c'est super cool comme vie, puis on dirait genre comme personne pourrait dire « Ah, je veux pas d'une vie comme ça, genre voyager, puis avoir mon temps pour moi tout seul, puis choisir ce que je veux », mais est-ce que tu penses que « veux, veux pas », c'est pour tout le monde les formations en ligne?
Je pense que si tu veux, tu peux, point. Dans le sens où... tu sais, il y a des débats aussi de quel genre de formation toi tu dois avoir pour enseigner. Moi, je suis de l'école où tout s'apprend. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, je veux dire, j'enseigne aux gens, ben, veux, veux pas, ces gens-là savaient pas avant, puis maintenant ils savent. Fait que c'est un peu la même chose avec l'enseignement où c'est pas parce que tu comprends pas comment le cerveau puis l'apprentissage fonctionne que t'es pas capable de t'adapter à comment est-ce que tes étudiants veulent avoir du contenu, comment est-ce que tu peux mieux les servir. Tu sais, c'est tout, là. Tu as juste à écouter en bout de ligne puis faire comme, OK, comment est-ce que je peux améliorer mon expérience? En termes de structure, je te dirais, moi, je pense que n'importe qui peut enseigner. Il n'y a pas juste une façon de le faire non plus. Le en ligne a aussi ce bénéfice-là où tu n'es pas obligé de montrer ta face. C'est le fun. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. Puis, tu sais, mes formations sont narrées. Genre, il n'y a jamais ma face. Je vais peut-être faire une vidéo d'intro, une vidéo de conclusion, mais mes formations sont narrées parce que j'ai pas envie de me maquiller. Puis, tu sais, je suis tout le temps là dans mes stories, on me voit beaucoup. C'est pas parce que je suis gênée, mais c'est parce que j'essaie d'optimiser mon temps. J'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de déléguer toutes ces choses-là. Mes formations sont narrées, donc on voit on entend ma voix, bien évidemment, mais il y a plein de personnes qui s'arrêtent. Je veux pas qu'on me voit. Correct, fine. You do you. Tu sais, il y a même, tu peux faire des portions de formation qui sont même juste audio. Il y a tellement de différentes façons de livrer finalement le contenu qui peut être juste adapté à qui toi t'es, puis c'est correct. Puis il y a des gens qui vont être vraiment intéressés puis interpellés par le visuel. Fait est-ce que tout le monde aura une formation en ligne? Bonne question. Je veux dire, si toi, je pense qu'on a toutes quelque chose à enseigner, puis la preuve qu'on connaît toutes en tant que millennial, de genre nos parents qui nous demandent comment un ordinateur fonctionne, ça veut pas dire que t'es un expert, mais t'es capable d'enseigner quelque chose, tu sais. Puis que l'autre personne comprend une information, t'es capable de. On est toutes capables, à un certain niveau, de simplifier une information pour que l'autre. Pour mettre les morceaux que l'autre personne n'a pas, tu sais. Fait que, est-ce qu'on devrait tous en avoir un? Moi, je pense que si tu veux un lifestyle soit similaire au mien et ou que tu veux juste plus de temps ou tu veux plus d'impact aussi parce que veux pas, on n'a pas tous les mêmes objectifs d'affaires. Il y a certaines personnes qui trippent vraiment à faire du one-on-one. Go, fais ça. T'sais, je veux dire, fais ce que t'aimes en bout de ligne. Là, on n'est pas là pour fitter dans un autre moule que le 9 à 5, tu sais. Mais si ton objectif, c'est de l'impact, c'est d'aider des millions de personnes, ben t'as pas assez d'heures pour si tu le fais en one-on-one. T'sais. Tu peux le faire en groupe aussi, mais des fois, surtout si tu veux donner beaucoup d'attention. Fait que ça dépend juste de tes objectifs d'affaires dans la vie. Je suis quelqu'un qui est plus dans le impact majeur. Puis, ben ça revient... C'est aussi quelque chose qui est assez égocentrique, où genre, encore une fois, ça revient à qu'est-ce que toi, tu veux. C'est ça, l'essentialisme, tu sais. Fait que ça part tout de ça. Ça part de prendre des décisions par rapport à ce que tu veux. Puis des fois, des décisions, c'est difficile à prendre. Surtout d'assumer c'est qui qu'on est. Mais une fois que c'est fait, là, c'est juste... OK, ça peut vraiment, vraiment te supporter dans la vie.
Ouais, puis je pense... Tu sais, je suis d'accord avec toi que, tu sais, tout le monde a quelque chose à enseigner, puis que, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un didacticien ou d'avoir étudié là-dedans pour être capable de bien transmettre de l'information. Mais, tu sais, c'est parce que je pense souvent aussi à... Ben, deux choses, OK? La première, c'est parce que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, ben, tu t'en rappelles sûrement parce que tu es dans ce domaine-là, mais, tu sais, il y a eu le premier confinement en mars de l'année passée.
Puis... Je sais pas de quoi tu parles.
Puis non, c'est ça, Puis là, il y avait eu cette espèce de vague... de formation en ligne, soudainement, là, tout le monde avait lancé comme une formation, tu sais. Puis là, il y avait eu de la critique quand même. Ben, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, puis j'avais lu beaucoup à ce sujet-là, parce que là, il y avait eu la PCU, puis il y avait eu tout ça qui était venu pour supporter cette espèce de vague d'intérêt-là. Mais là, il y avait eu justement la critique inverse qui disait, ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est un expert dans son domaine, tu sais, qu'il peut s'inventer formateur du jour au lendemain. Fait que tu sais, il y a quand même un niveau d'apprentissage peut-être à... Ben, je sais pas, ça serait quoi le baseline, tu sais, ça serait quoi le baseline pour dire, OK, ben du jour au lendemain, je deviens un formateur ou, genre, j'ai quelque chose à apprendre?
Ça dépend à qui tu t'adresses. Dans le sens où, tu sais, mettons que tu viens... OK, les plantes, OK, c'est un petit peu mon dada, là. Ouais. Tu viens juste de t'intéresser aux plantes, tu connais pas encore grand-chose, tu masters pas encore grand-chose, est-ce que t'as assez... En fait, ça revient aussi à déterminer c'est quoi l'expertise, parce que l'expertise, en fait... T'es pas obligé d'être un expert pour enseigner quoi que ce soit. T'es pas obligé d'être une sommité. Puis je pense qu'on s'attend des formateurs qui soient des sommités dans leur domaine. Genre, si t'es moins que ça, tu mérites pas d'enseigner. Puis ça, je suis pas d'accord. Parce que quand t'es la sommité, tu peux enseigner à n'importe qui. Quand tu viens juste de commencer, ou quand, mettons, t'es rendu au niveau 1, ou mettons, au niveau 2, t'es capable d'enseigner au niveau 1. Mais t'es pas au niveau 3, 4, 5, 6. Fait qu'il faut que toi, en tant que formateur, tu sois aussi réaliste avec qu'est-ce que tu sais puis à qui tu t'adresses pour pas nécessairement être l'espèce de phony de genre « fake it until you make it ». Non, non, je sais tout. Non, c'est pas vrai. Fait que tu sais, moi, mes formations, je les crée toujours d'expérience. Ça me prend du temps à créer des formations, c'est long. Ma première formation, je l'ai créée sur l'affiliation parce que j'en fais depuis 2013, tu sais, en tant que créateur d'infoproduits. Donc, je me suis dit, je sais de quoi je parle, je vais créer une formation. Est-ce que je suis la sommité mondiale en affiliation? Non! J'ai une amie, justement, aux États-Unis qui est encore meilleure dans la gestion de programmes d'affiliation. Elle enseigne ça, puis c'est, tu sais, des espèces d'affaires de millions. Je pense pas que je suis aussi bonne qu'elle, mais j'en sais assez pour enseigner à tous mes étudiants qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu sais. Puis that's it. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça. Le mot expert, comme c'est ça, on n'a pas besoin d'être l'expert mondial dans un sujet pour enseigner une formation en particulier, mais il faut que tu saches quelque chose, point. T'sais. Il faut que tu sois toujours au moins au niveau 2 pour enseigner à des niveaux.
Fait que je pense que ce que tu mets vraiment bien le doigt dessus, c'est comme justement, ton positionnement, hein? Et là où tu veux t'intégrer dans ton industrie ou dans le marché, puis d'être clair aussi par rapport à la gestion des attentes de tes clients.
Absolument.
Je pense que ça, c'est encore une fois dans la pure transparence, puis la pure genre connaissance aussi de son business, puis c'est là qu'on devient plus authentique aussi dans ce qu'on vend, puis qu'on est moins dans le imposteur, le syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça. Là.
Mais tu sais, c'est toujours tricky, des formateurs, même des coachs, on va se dire, là, qui vont dire « je vais t'aider à faire 100 000, mais ils en font 50 », je fais comme « ok, mais c'est quoi l'expertise que t'as, peut-être, avec de travailler avec d'autres entreprises qui peut servir à ça, mais peut-être que toi, en tant que coach, tu peux juste dire « je vais t'aider à faire 50 ». Tu sais, j'en fais déjà 50, je sais comment faire 50. Tu parles d'expérience. Mais c'est correct aussi d'aider des gens à faire leur premier 50. Tu n'es pas obligé de promettre la lune à tes clients, tu sais, à tes étudiants. Fait que c'est un peu ça, c'est d'être réaliste par rapport à ce que toi, tu es capable de faire. Et tu as toujours parlé d'expérience. Pour moi, ça fait partie un peu de l'éthique du formateur, de justement parler d'expérience. Ma deuxième formation, c'est sur une méthode que j'ai comme bâti, mais c'est ma méthode. Je l'ai testé avec moi-même, je l'ai testé avec d'autres clients. Ça fonctionne. Fine, je vais te l'enseigner, tu sais. Mais c'est juste des choses que je connais. En tout cas, c'est personnel. Jamais j'enseigne quelque chose que je ne master pas parce que, veux pas, je m'attends à ce qu'il y ait des questions que je n'ai pas vu venir puis que je ne sois pas capable de répondre. Puis à cette situation-là, je me dis, je vais-tu être capable d'offrir le meilleur service à ces clients-là qui ont payé? Probablement pas. Donc, vraiment, je m'assure d'être la formatrice finalement que mes clients ont besoin.
Mm-hmm. Non, c'est super intéressant. Puis aussi, tu sais, dans ma propre expérience, parce que souvent, je parle j'ai mes propres coachés, puis des fois, elles vont avoir eu l'idée ou la volonté de lancer une formation, ou même des fois, elles l'ont lancée, puis elles vont se rendre compte que ça cliquait pas nécessairement avec... Tu sais, c'est pas quelque chose qu'elle voudrait continuer à promouvoir parce qu'il y avait quelque chose qui était comme un peu désaligné.
Mm-hmm.
Puis on dirait que moi, personnellement, dans mon expérience, ça m'est arrivé aussi où est-ce que j'ai lancé des formations au début de M. Tamarque, où est-ce que, bon, tu sais, justement, je m'intéressais à ce que les États-Unis faisaient, puis disaient, alors, ta formation en ligne, t'as juste besoin d'enseigner quelque chose d'adidada. Mais pour ma propre confiance, là, j'en suis revenue à du coaching où là, j'ai développé mes méthodes, là, j'ai développé mes choses. Fait que je pense qu'il y a aussi une évolution dans peut-être ton business model ou dans la confiance. Oui. Tu sais, toi, tu as toute ton expérience d'entrepreneuriat qui a précédé aussi.
Oui, mais j'ai pas été très confiante en mes capacités quelconques avant, je sais pas, même 2019, pour être bien honnête, là. 2018 aussi un peu. Oui, mais c'est parce que j'avais rien testé. Je veux dire, j'avais testé dans ma propre business, mais pas avec d'autres personnes. Fait que je savais pas vraiment si ce que je connaissais allait bien résonner avec les gens que j'allais attirer non plus. T'sais, tout était nouveau. J'ai vraiment, tu sais, ma business de, gros guillemets, coach, parce que je fais pas de one-on-one, mais de coach de business en français, elle existe seulement depuis 2018-ish, là, à peu près. Là. J'ai eu 3 clients en one-on-one, parce que j'ai commencé par ça. Je me suis dit, c'est facile à offrir, j'ai juste besoin d'être là puis de recevoir de l'argent en échange, c'est tout, c'est du temps contre de l'argent, c'est facile à offrir, je vais en faire, je vais tester un peu comment est-ce que je suis capable d'aider les gens, enfin, j'en ai fait aussi, j'ai eu 3 clientes pendant l'année, un genre de 7 mois de coaching total. Puis
je me rappelle de tes premiers épisodes de podcast, puis t'en parlais.
Oui, c'est vrai, la première année, j'ai fait 7 500 $ avec 3 filles en coaching. C'est tout ce que j'ai fait, tu sais. Mais cette année-là, ça m'a vraiment aidé à me figure out, tu sais, à trouver qu'est-ce que je suis, c'est quoi mon angle, mes patentes. Le podcast aussi a aidé à ça, à trouver un peu. Je me rappelle une discussion dans un café avec Mélissa Maillé. J'étais genre, yo, c'est quoi mon affaire? Genre, qu'est-ce que j'amène? Puis elle était comme, les vraies affaires. J'étais comme, je sais pas, mais ça, c'est une drôle de thématique. J'étais comme, fait que ça a pris ça, puis en février 2019, j'ai lancé ma première formation tout seul. J'en avais lancé avec mon chum, mais c'était la première fois que je lançais tout seul. J'étais comme, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Puis je testais aussi mes propres connaissances de lancement. Fait que je testais plein d'affaires. J'ai dit, OK, ça va bien, une chose à la fois, la formation, ça va bien. Ensuite, il y a eu le mastermind. Ensuite, relancement de Maec. Ensuite, catching l'an passé. J'étais comme, OK, je commence à connaître des patentes, là, tu sais, ça va bien. La méthode bêta, plus... Fait que bref, dans tous les cas, c'est à force de juste me lancer et d'essayer des patentes. J'étais comme, OK, mais ça fonctionne. Puis tu sais, mes formations n'ont pas été lancées de façon stratégique, dans le sens où Mec va beaucoup mieux après la méthode bêta. Parce que tout ce qui est affiliation, ben c'est beaucoup plus, ça se fait avec des services, mais c'est beaucoup plus efficace avec des infoproduits. Fait que si t'as une formation en ligne, la prochaine étape, c'est comme, OK, comment est-ce que je peux la vendre? Ben là, tu vas peut-être t'équiper d'un programme d'affiliation ou tu vas avoir des ambassadeurs. Fait que je les ai pas créés dans le... Mais ça m'a pris l'espèce de ça m'a pris de passer à l'action avec Maëk, de gagner la confiance en moi pour après ça dire, je peux créer une méthode pour aider les gens à créer une formation en ligne. Puis après ça, on va revirer ça, là, l'ordre stratégique des formations. Puis c'est correct, puis on va s'en sortir. Mais c'est dans l'action que j'ai comme gagné confiance en qu'est-ce que je sais puis qu'est-ce que je suis capable d'enseigner, là, tout simplement.
Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Puis ça suit bien un parcours normal d'entrepreneur, entre guillemets, où tu sais, t'es obligé un peu de tester puis de faire des hypothèses, tu sais, puis de te lancer, d'être dans l'action, justement.
Je trouve ça toujours tricky de recommander aux gens de commencer stratégique depuis le début, parce que je fais comme, ben peut-être que tu t'es déjà tout, tu te connais tellement, puis t'es full aligné, puis tu sais c'est quoi, mais moi, ça n'a pas été ça mon parcours. Moi, c'est juste d'essayer des patentes, faire comme, oh, ça marche, ça marche pas, OK, là, je commence à gagner de la confiance en moi, puis that's it. Fait que, oui, la stratégie, mais l'action avant, pour vrai, pour moi, c'est juste comme, juste essaye quelque chose.
Ben, la stratégie sans l'action, ça vaut rien. L'action sans la stratégie, ça peut être aussi, ça peut être long, longtemps.
Ça peut être long, mais tu sais, je suis rendue à la troisième année, je devais quelque chose comme ça, là, je sais plus compter, mais dans tous les cas, il commence à avoir plus de stratégie, mais je te dirais qu'au début, ce qui compte, c'est de bâtir cette confiance-là, puis juste de comme... Ouais. Fait que tu sais, les formations que tu as lancées au début, qui sont pas nécessairement alignées, t'ont aidé à te former, à bâtir cette confiance-là, à dire, OK, pas ça que je veux, de te ramener à la bonne place. Fait que toutes ces choses-là étaient peut-être pas stratégiques, mais t'ont aidé à le devenir plus. C'est comme ça que je le vois.
Ouais, définitivement, définitivement. Puis après ça, tu sais, rien m'empêche de les réutiliser. Oui, après ça, c'est tout le temps réajusté. Tu sais, y a rien qui est perdu. On crée rien dans le vide, là, tu sais. J'ai une question par rapport à comment toi, tu choisis tes formations en ligne, parce que ça va nous donner peut-être un bon indice de qu'est-ce que tu
fais que je consomme?
Oui, qu'est-ce qui fait un bon cours selon toi?
J'en consomme pas une tonne par année. Avant, j'en achetais plus, mais surtout, j'achète tout le temps juste quand j'en ai besoin, sérieusement. Puis, où est-ce que je suis? Tout dépendant de où est-ce que je suis rendue. Fait que, tu sais, pendant vraiment des années, ben deux, mettons, je me suis intéressée, ben peut-être plus avant aussi, mais c'était comme pas un focus encore. Mais à partir du moment où j'ai décidé, OK, juste avec ma business, je vais arrêter de faire du coaching en one-on-one, je veux juste comme faire des formations en ligne, évidemment, je connaissais tout ce qui était evergreen, puis les funnels evergreen, mais je connaissais pas grand-chose, tu sais. Fait que pendant longtemps, j'étais comme, je veux une formation là-dessus, tu sais, ça pourrait être du coaching en one-on-one. Ça pourrait. Je sais que je suis très, très, très autodidacte. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée de s'accompagner ou quoi que ce soit, mais j'étais comme, une formation, je pense que je serais capable d'avoir un bon retour sur investissement. Puis, j'en voyais une qui m'intéressait, qui était potentiellement le bon sujet, mais la coach, ça ne cliquait pas. Genre, c'était comme, on dirait que, je sais pas, c'est comme, j'ai l'impression que je ne vais pas en retirer autant d'informations juste parce que ça ne connecte pas. Il y avait quelque chose de trop fret, il y avait quelque chose de... Je sais pas, il y avait quelque chose qui clochait, bref. Puis, fait que j'ai toujours mis ce projet-là en stand-by, j'achetais rien par rapport à ça. Des fois, j'achetais des affaires sur Facebook qui passent, j'ai un besoin, bizarrement, Facebook sait de quoi j'ai besoin, d'une formation là-dessus, j'étais comme, ah, ça a l'air bon. Mais il faut vraiment que je connecte, genre, rapidement avec soit le message, les valeurs de la personne. C'est ça qui est arrivé cette année, le dernier gros move de formation en ligne que j'ai acheté, c'était avec Mariah Cause, puis elle avait justement, j'étais sur YouTube, j'avais écouté une autre affaire de COVID, puis il y a une pub vidéo qui part avant, puis c'est Mariah Cause qui parle de sa formation Evergreen Engine sur les funnels Evergreen, puis la fille a les cheveux roses, la fille parle de funnel humain, où, tu sais, il n'y a pas de niaisage, puis de cerceau que les gens doivent sauter dedans, puis je suis genre, oh, OK! Fait que là, je clique. Fait que là, j'écoute son petit vidéo. Puis là, j'écoute la patente, puis je suis comme, oh, c'est intéressant, toutes ces patentes-là. Puis à un moment donné, je pose une question. Je pense que c'est sur application, je sais plus. Écoute, en dedans de 48 heures, on m'avait upsellé une affaire à 12 000 $, puis je l'ai acheté, puis j'étais comme, let's go! Genre, pourquoi? parce que j'ai vraiment gros cliqué avec le message, avec la fille, avec l'ambiance, avec la vibe. J'étais comme, all right, let's do this. Fait que je pense que, puis ça, c'est un bon argument pour tous ceux qui se disent, oui, mais il y a déjà quelqu'un d'autre qui le fait. C'est que j'ai longtemps hésité avec l'autre formation, puis finalement, c'est la fille aux cheveux roses que j'ai choisie. Bon, peut-être à cause que j'ai les cheveux roses, mais non, c'est pas vrai. Mais dans tous les cas, c'est juste, tout le monde offre quelque chose de différent. Fait que oui, il y a le contenu. Oui, la fille, je savais c'était qui depuis longtemps. J'avais jamais vraiment suivi son parcours très proche. Mais c'était le bon moment. C'était la bonne personne. C'était le bon message. C'était les bonnes valeurs. C'est comme ça que j'ai choisi d'embarquer dans ça. Il n'y a pas vraiment de coaching en one-on-one là-dedans. C'est juste comme toutes ces formations dans le truc que j'ai, incluant Evergreen Engine. Puis, ça a été un investissement génial que j'ai déjà remboursé 2-3 fois, tu sais. Nice. Je suis comme, nice. OK, cool. Mais c'est ça, fait que je savais c'était qui, des valeurs cliquaient, puis la personnalité, that's it. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait choisir nos formations, puis je pense aussi que c'est pour ça que le marché est vraiment pas saturé.
Très, très cool. Puis est-ce que tu penses que, des fois, tu sais, j'imagine que tu as beaucoup de clients aussi, puis je le vois, qui ont comme l'idée qu'il faut vraiment packer à fond la formation pour qu'il y ait de la valeur. Tu sais, comment tu vois le ratio entre ce que tu dois consommer, appliquer et les résultats que tu t'attends dans une formation?
Écoute, pour en revenir à cette formation, ben le package de formation que j'ai acheté, j'ai pas encore consommé l'entièreté de la patente. J'ai déjà fait 3 fois mon retour sur investissement. Fait que je pense que les meilleurs étudiants sont tout le temps les étudiants qui sont automotivés. Tu n'achètes pas une formation pour avoir de la motivation. Tu vas trouver ça gratos sur YouTube, tu t'en vas dans les stories de quelqu'un, tu trouves des belles affirmations, messages inspirants. Ça, peut-être. Sauf que la motivation, pour moi, vient après l'action. C'est un mythe que la motivation arrive par magie, puis que là, tu fais que « OK, là, ma journée va... » Peut-être que tu es capable de la booster en faisant l'activité physique, ce genre de patente-là. Il y a des outils de support, mais pour moi, ça part de « on va le faire », puis après ça, tu as un momentum qui se bâtit, tu sais. Fait que je pense qu'en tant qu'étudiant, la meilleure façon de voir, d'approcher une formation en ligne, c'est de se dire « est-ce que je suis vraiment prêt à sauter là-dedans? Puis est-ce que je suis capable de faire les efforts moi-même? » En général, si tu te poses la question « combien d'heures ça va me prendre? », c'est pas une question qui est pas legit, dans le sens où tu vas essayer de rentrer ça dans ton horaire puis tout, mais es-tu prête à y aller all-in, tu sais? Il y a des formations aussi que, tu sais, c'est des formations moins dispendieuses que pas les résultats, mais ben, la promesse, finalement, c'est pas de changer ta vie, mais, tu sais, plus d'apprendre comment utiliser Pinterest. T'as pas nécessairement besoin de prendre 50% de ton horaire, là, tu sais. Mais il y a des grosses formations, comme la mienne, la méthode bêta, qui va te prendre beaucoup d'heures. Parce que, veux pas, une formation en ligne, c'est une nouvelle source de revenus, c'est un nouveau pilier dans ta business. C'est quelque chose qui est massif, là, tu sais. Fait que, surtout dans ces formations-là, qui sont qui promettent un gros changement, engage-toi. Mais je ne vais pas chercher juste la motivation là-dedans. Là. Même les gens dans le groupe peuvent t'aider avec la motivation. La coach peut t'aider avec la motivation. Mais en tant que client, ta responsabilité, c'est de t'auto-motiver puis d'appliquer le contenu. Fait que, tu sais, je pense aussi qu'il y a tout le temps une façon d'approcher le contenu, de genre, est-ce que ce contenu que je pense que je connais, je l'applique vraiment aussi? C'est de vraiment se challenger en tant que client. Fait que, écoute, en tant que ratio, bonne question, ça dépend de la formation, comment est-ce que c'est bâti, le contenu. Mais je pense que ce qui indique vraiment plus le succès par rapport à toi en tant que client, c'est à quel point tu es vraiment prêt à t'engager dans... Parce que tu peux bien apprendre, puis juste remplir ton cerveau d'informations, mais tant que tu ne l'appliques pas, ben, tu n'en auras pas des retours sur investissement, tu sais. Fait que, encore une fois, ben, ça passe dans l'action. Peu importe que tu sois le formateur ou que tu sois le client, si tu n'es pas prêt à prendre action, tu n'auras pas de résultat. Point.
Puis ça, c'est un gros changement de mindset aussi pour le créateur de la formation, pour celui qui la vend, de dire, tu sais, je suis pas comme le babysitter de mes clients, puis j'ai pas à les amener par la main, genre exactement, tu sais. Puis je pense que ça a été un gros apprentissage pour moi aussi, autant en coaching qu'avec mes programmes, de dire, tu sais, le but, c'est de qualifier les gens qui sont justement prêts à passer à l'action, tu sais. Puis après ça, genre, tu sais, je te livre mon contenu, mais comme tu dis, c'est toi qui es responsable de ton résultat, tu sais. Je te promets de te donner mon max, et puis après ça, tu sais, c'est entre tes mains de le transformer en or, là.
Effectivement. Très, puis, ouais. Je veux dire, même le taux de complétion, je pense, moyen, plus, écoute, c'est un vieux chiffre que je connais, puis c'est peut-être plus relevant, mais était de 30% par rapport aux étudiants. Tu sais, le nombre de personnes qui se rendent jusqu'à la fin. Puis que, fait que, tu sais, ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui, soit qui ouvrent pas la formation, que j'ai une amie justement qui était comme, ouais, la formation coûte 3 000 $, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté, qui l'ont jamais ouvert. Je suis comme, what? Je suis comme, OK, fine. Mais ça se peut, tu sais, le timing des fois, ou finalement, je sais pas quelle raison, ou des gens qui commencent, sont full motivés, puis à un moment donné, tu sais, il y a plus de... Et puis d'énergie.
Ben, c'est ton abonnement au gym que tu rentabilises pas.
Mais ça, mais il y a plein d'autres affaires aussi. Toi, en tant que formateur, tu peux améliorer aussi la formation pour prendre en considération ces blocages-là. Donc, t'es pas obligé de juste créer du contenu par rapport à ton contenu. Tu peux créer du contenu par rapport au mindset à l'intérieur même de la formation. Donc, tu sais que à mi-parcours ou à ce module-là en particulier, là, les gens commencent à « Ouh là, c'est difficile. Oh là, je commence à manquer de motivation. » Ben, tu peux créer comme une espèce de SOS, genre je manque de motivation, une espèce d'audio avec, on parlait tantôt de mantra et de patente, mais tu sais, d'aller donner ce contenu-là que finalement les gens ont peut-être besoin, ça ne veut pas dire que c'est ta responsabilité de motiver les gens, mais ça peut être comme une espèce de petit bump ou genre quelque chose qu'ils avaient besoin pour passer plus rapidement au travers du défi. Donc, tu peux intégrer ce contenu-là à même ta formation, puis les gens aussi se sentent plus écouter parce que c'est comme, oh, c'est vraiment de quoi, ok, assez qu'est-ce que je vis là, ok, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes avant moi qui ont passé au travers, ok, je suis capable, on continue, tu sais. Donc, je pense que c'est aussi une preuve que tu connais bien tes étudiants, puis que tu es capable de, que tu les écoutes bien, puis que tu crées du contenu qui va répondre à leurs besoins, pas juste avant, mais pendant aussi la formation, tu sais.
Non, écoute, ça serait vraiment fascinant de parler pendant des heures avec toi de ça, parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Encore une fois, surtout parce que je suis comme un peu dans le, tu sais, je suis dans la phase 2 de ma formation, tu sais, la cohorte 2, puis là, je vois ces choses dont tu parles qui peuvent être améliorées, mais de tout, tu sais, on a déjà comme parlé beaucoup, puis j'ai quand même deux questions importantes que je voulais te poser avant qu'on se quitte. Ouais. Puis c'est, j'ai l'impression, puis je pense que ça va servir beaucoup des gens qui veulent peut-être se lancer ou se lancer dans la méthode bêta ou dans le lancement d'une formation, mais j'ai l'impression souvent que les gens, ils mettent un prix arbitraire à leur formation. Est-ce que tu les accompagnes à trouver combien ça vaudrait sur le marché ou des choses comme ça? Puis, tu sais, as-tu un truc ou quelque chose par lequel on peut commencer?
Je dirais, pour être honnête, que genre, à date, la personne la plus experte dans ce sujet-là, ça va être Alex Martel. Mais ouais. J'en parle dans la formation, évidemment, j'en parle. Mais tu sais, est-ce que c'est arbitraire? Oui et non, ça dépend du résultat que t'offres. T'sais, y a comme, on parlait tantôt de la différence entre une formation qui promet de créer son compte Pinterest, puis la formation qui promet de créer une nouvelle source de revenus dans ta business, ou c'est comme une espèce de gros changement majeur de passer de 50 à 100 000. Tu sais que le travail va être plus élevé. Est-ce qu'il y a une science? Il faut demander à Alex. Je connais moins la science. Dans tous les cas, je suis plus du domaine du test, dans le sens où Maëk a déjà coûté 197 $, maintenant il coûte 597 $. Pourquoi que le prix a changé, c'est qu'initialement c'était un bêta, initialement j'avais pas confiance en moi, drapeau très important, mais c'est ça pareil, puis éventuellement ça a monté à 297 au premier lancement, puis après ça à 497, puis je suis rendu à 597. Est-ce que ça va augmenter? Peut-être, mais tu sais, c'est aussi une question d'expérience. Est-ce que ton contenu s'améliore aussi dans le processus? Est-ce que tu rajoutes du stock dedans? C'est une question de demande, c'est une question mais c'est aussi une question de promesse, dans le sens où, c'est quoi le retour sur investissement que tu es capable de promettre à tes clients? Si moi, je sais qu'à peu près, mes clients sont capables de générer 2 500 $ dans leur première année avec leur programme d'affiliation, ben charger 597, pas trop, tu sais, on s'entend, le retour sur investissement va se faire facilement. Puis l'avantage dans les formations business, puis je sais que certaines personnes qui écoutent que c'est pas business, c'est parce qu'on a un retour sur investissement qui est tangible. Tu sais, on peut pas promettre et garantir des revenus, mais s'il est pour avoir un retour, ça va probablement être sous forme de financière. La même chose pour la méthode bêta, je veux dire, une nouvelle source de revenus veut dire, ben, tu rajoutes des nouveaux revenus. Je suis capable de dire maintenant en moyenne, ceux qui ont lancé avec ma méthode, combien ils sont capables de générer. C'est comme ça que je base, moi, mes propres prix. Après ça, tu es capable aussi de demander, de tester les eaux. dans ma tête, c'est pas plus stressant que de tester puis d'augmenter. Je vois ça plus facilement d'augmenter le prix avec le temps que le contraire, parce que les premiers sont toujours plus à l'aise que les prochains payent plus que eux. Puis les prochains, c'est comme, OK, mais c'est correct que le prix était moins cher avant parce que ben, c'était en test où la formation est meilleure. Fait que, tu sais, pour moi, c'est plus facile d'augmenter le prix que le baisser. Fait que c'est un peu comme ça que j'approche ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui... Il y a des gens qui ont la confiance de se lancer tout de suite avec un prix premium, puis ils vont avoir les résultats qui vont avec, puis c'est super parce qu'on s'entend. Puis je sais que tous ceux qui écoutent ont beaucoup de valeur à donner. Mais des fois, ça prend le prix moins cher, pas de confiance, qui va nous amener au prix plus cher par la suite. T'sais. Fait que c'est un drôle de monde, le pricing. Puis oui, il y a des formules, oui, il y a des calculs qui peuvent être faits, la comparaison, on peut difficilement faire des études de marché qui amènent des résultats tangibles en tant que petite entreprise, parce que, veux pas, ben, on est limité par la grosseur de notre communauté, par plein d'affaires. Fait que je suis plus de l'école de genre, check c'est quoi le retour sur investissement potentiel que tu peux avoir. Essaye avec un prix, puis rajoute donc 10% parce que t'es pas confortable, fait qu'on va rajouter un petit 10% pour le fun, tu sais.
Ah non, c'est une bonne méthode, puis je veux dire, en termes de pricing, effectivement, là, je vais mettre le lien vers tout ce que t'as mentionné, mais aussi vers la formation d'Alexandra, mais tu sais, c'est sûr que c'est fluctuant, encore une fois, selon plein de contextes, notamment genre, justement, ton expérience, qu'est-ce que tu as fait avant, ta notoriété et ta communauté, parce que tu l'as mentionné un petit peu, puis ça serait une des dernières questions que j'avais à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que, selon toi, c'est quoi le rôle de la communauté dans la vente de notre formation, puis est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer au niveau de créer une formation en ligne parce qu'ils disent « Ah, il faut que je bâtisse ma communauté en premier », puis des choses comme ça, fait que...
Ben en fait, vendre des formations en ligne, vendre des infoproduits, c'est une question, pour être rentable, c'est une question de masse, on s'entend. Tout dépendant évidemment du prix, là. Mais tu sais, c'est sûr que si tu vends une formation qui coûte 10 000 ben ça t'en prend 10 pour faire 100 000 dans ton année, tu sais. Mais il y en a peu qui vendent des formations aussi dispendieuses. Fait que, mettons que tu vends une formation à 197. OK? Ça t'en prend une bunch pour faire un salaire, pour faire un revenu brut qui est assez pour payer tes dépenses et ainsi de suite. Fait que c'est aussi une game de chiffres. On vend pas une formation en ligne comme on vend du coaching et ou des formations très haut de gamme à 10 000 $. Ça prend beaucoup plus de volume. Est-ce que ça veut dire que si tu as 100 personnes qui te suivent sur Instagram, tu peux pas avoir ta formation en ligne? Pas nécessairement. J'ai des clientes qui ont suivi la méthode bêta qui avaient... Écoute, bâti une liste de 15 personnes, de ces, une liste d'attente de 15 personnes. De ces 15-là, il y en a 6-7 qui ont acheté pour son premier lancement, puis elle le reste, ça a été avec sa petite minuscule communauté de 50-100 personnes. Tu sais, fait que t'es pas... C'est une question de c'est une question de qualité, de qualifier les gens, pardon, dans ta communauté. Est-ce que tu attires les bonnes personnes? Si oui, t'as pas besoin d'avoir 100 000 personnes qui te suivent, ni même 10 000, ni même 2689. Tu peux en avoir un petit nombre, mais si ces gens-là te suivent pour les bonnes raisons, puis t'as bien bâti l'anticipation, les gens vont acheter pareil, tu sais. Fait que j'ai vu des clientes faire des miracles avec des mini-communautés, de remplir, mettons qu'ils décidaient qu'il y avait 12 places, de les remplir au grand complet. Puis c'est pas des gens qui ont 10 000 personnes sur leur liste de courriel ou de ou sur Instagram. Donc, le travail de vraiment, juste nurture, là, mais de vraiment prendre soin de sa communauté puis donner le contenu qui est vraiment relevant à qu'est-ce que tu veux vendre par la suite est autant important que créer ta formation parce qu'en bout de ligne, t'en vendras pas là, s'il y a personne qui est là, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que les gens qui viennent me voir puis qui me disent « Mais j'ai pas de communauté zéro, genre qu'est-ce que je vais faire avec ta formation? » Je fais comme « Ben, tu vas travailler en même temps, là. T'as pas le choix, là. Parce que si tu veux du feedback, si tu veux créer une formation qui est vraiment à l'écoute de ton monde, mais que t'as personne, ben ça va être un peu difficile. Mais il y a des façons de faire, mais tu vas faire un effort supplémentaire. Dans tous les cas, ça te prend des gens, mais ça t'en prend pas 10 000. Fait qu'il faut juste... penser, est-ce que préalablement, j'ai fait le travail de donner du contenu qui donne la valeur, qui a rapport avec ma formation? Fait que, tu sais, si tu donnes juste du contenu personnel sur Instagram, ou tu parles de ton chien, ou tu parles de la nouvelle sacoche que tu as achetée, ou whatever, tu sais, si, je sais pas, si t'es un influencer, puis que tu vends de la bouffe pour chien, puis des sacoches, je sais pas, bref, ça fait du sens, mais sinon, si tu vends une formation sur comment faire des savons, ça n'a pas rapport. Tu sais, comment est-ce que tu es capable de qualifier ton monde avant va en dire vraiment plus long sur est-ce que tu vas être capable de vendre tes formations, surtout, ben, en général, mais surtout si tu as une petite communauté. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils te suivent, puis c'est pour ça qu'ils vont rester, puis c'est pour ça qu'ils vont acheter.
Mm-hmm. Ouais, c'est une super belle fin pour cet épisode, parce que je pense que ça taille bien le monde des formations en ligne, des produits passifs, mais aussi de la présence numérique, la présence web, le branding personnel, l'utilisation oui. justement des stratégies de contenu, puis
tu mentionnes, je vais faire un bémol parce que je peux pas m'en empêcher. Tu mentionnes produits passifs, mais c'est quelque chose que j'utilise pas. On comprend qu'est-ce que c'est là, c'est parce que c'est le wording est populaire, mais c'est quelque chose que j'utilise pas parce que comme les gens qui écoutent ont pu comprendre, je fais pas rien. Genre, je mets beaucoup d'efforts pour vendre des formations en ligne, donc c'est loin d'être passif, mais c'est des revenus qui peuvent popper un peu n'importe quand aussi, surtout si tu as quelque chose qui est evergreen en place. Mais quand tu fais des lancements, c'est pas passif un lancement, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je préfère parler de revenus exponentiels, parce que les heures que tu vas mettre peuvent générer plus que ton salaire horaire, disons, là, tu sais. Fait que si je suis capable de toucher 1 million de personnes avec la même heure, c'est ça qui est exponentiel, tu sais. Fait que je pense qu'il faut enlever aussi le mythe que c'est passif. Parce que pour moi, ce qui est vraiment passif, c'est acheter, tu sais, c'est acheter de l'immobilier puis laisser, genre, les gens payer sur leur loyer. Mais still, faut quand même que tu entretiennes le loyer, puis s'il y a une fuite, faut que tu sois là pareil. Fait que, pas passif, mais exponentiel. Je préfère replacer ça comme ça. Puis éventuellement, quand t'es rendu au Evergreen, j'ai fait une vente dans mon funnel Evergreen, genre une semaine, puis j'étais genre... C'était la première fois que ça là, c'est du 100% passif. J'ai travaillé, là, genre, cet automne, puis un moment donné, il y a juste quelqu'un qui a acheté, puis j'étais comme, je sais pas c'est qui, la fille, elle a acheté. Oh my God, qu'est-ce qui se passe, genre? Puis j'étais comme, là, on était vraiment dans l'extra-passif, mais c'est quelque chose qui se travaille, puis t'as besoin d'avoir un marketing qui a vraiment été travaillé pour moi avant d'aller dans cette option-là, parce que c'est sur le pilote automatique, là. Tu fais-tu confiance en ton marketing? Est-ce qu'il convertit, tu sais? Fait que c'est pour ça que je recommande pas nécessairement aux gens d'aller directement là en commençant avec tout ce qui est infoproduit, de travailler le marketing avant ça, de voir si ça convertit, si les gens répondent bien. Puis après ça, d'aller dans cette option-là. Puis là, je sais que j'ai scrappé ta conclusion. Excuse, vas-y.
Donc, super, c'est vraiment génial que tu aies fait ce point-là, parce que ça ramène au fait que tu vas être obligé, tu sais, puis ça enlève ce mythe, comme tu dis, du produit qu'on va juste laisser sa tablette puis qui va se faire acheter.
C'est tellement un mythe.
Parce que les gens, ils vont venir sur notre site, puis là, soudainement, ils vont avoir envie d'acheter notre formation.
Ça, là, alors... dire, OK, est-ce que ton site est optimisé SEO? Est-ce que tu as genre 1 million de visites par mois sur ton site? Sinon, là, comment est-ce que tu penses que ça va se vendre? Les gens vont pas juste chiller sur ton site web tranquille, là, puis aller dans... Les gens visitent ton site web une fois, puis après ça, ils reviennent plus. Genre, pourquoi est-ce qu'ils reviendraient, là, tu sais? Même s'ils reviennent pour ton blog à chaque semaine ou ton podcast, ou, ils vont pas revisiter le site web, là, tu sais? Fait qu'il y a tout le temps une stratégie là-dedans. Fait que c'est important de travailler tout ça. C'est pas passif, tu sais?
Non, voilà. C'est ça. Puis, tu sais, ça revient aussi à l'idée que des fois, des gens vont peut-être lancer des formations, ils vont se rendre compte qu'ils aiment pas ça, parce qu'ils sont pas prêts à mettre le temps qu'il y a à la nourrir encore et encore et encore, à faire des lancements, à faire du building de communauté, puis à genre parler de cette formation-là ever pendant genre des mois et des années.
C'est des tâches que tu ne ferais pas nécessairement en one-on-one parce que tu vends d'une certaine façon, que tu vas devoir faire en vendant des infoproduits, mais tu ne feras plus aussi des tâches que tu faisais en one-on-one. C'est juste un shift de comment est-ce... Tu sais, la partie passive de ça, puisque les gens voient, c'est j'ai créé le produit qui est préenregistré, j'ai créé la page de vente, les gens peuvent juste aller sur la page, acheter sans que je sois là, puis je me réveille le lendemain matin, puis poum, il y a de l'argent dans mon compte de banque. C'est pas faux, mais genre, ça c'est la machine, mettons c'est l'automobile. Mais parce que pour que ça fonctionne, une automobile, ça a besoin de gaz. Fait que s'il n'y a pas de gaz, bien la machine, elle ne sert à rien. Fait que c'est un peu ça le concept, c'est juste que si tu choisis ce modèle-là, il faut aussi prendre en considération qu'il va falloir que tu mettes du gaz non-stop dans la machine. C'est un peu ça, tu sais. Puis quand tu es rendu plus avancé, disons avec un funnel evergreen, ben peut-être que ça va prendre la forme de publicité, puis c'est correct. Puis peut-être que tu vas avoir bâti une communauté assez grande pour que ton trafic organique soit assez dans ta machine. Il y a plein de façons de mettre du gaz dans la machine, mais il va falloir que tu mettes du gaz dans la machine, tu sais. C'est un peu cela,
tu vois. Belle allégorie. Très bien. Bravo. J'aime beaucoup ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour toute cette expertise, justement. Tu es une experte dans ton domaine.
Ah, c'est travaillé, je pense que oui.
On va mettre tous les liens vers la méthode bêta, vers tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Puis, juste qu'on le dise verbalement, où préfères-tu que les gens te suivent?
Sur Instagram. J'ai juste un média social. J'ai une page sur Facebook, mais elle n'a pas été alimentée depuis genre février 2019. Octobre 2019, je suis plus sûre. Anyway, dans tous les cas, je ne vis que sur Instagram pour les médias sociaux. Barre en bas, Geneviève Gauvin. Il y a mon site web, Geneviève Gauvin, qui est alimenté pour le podcast. Mais sinon, on en a parlé brièvement. Mon podcast, Les vraies affaires, qui est disponible sur n'importe où est-ce qu'on écoute des podcasts. C'est pas mal ça. C'est là qu'on me retrouve.
Ben, on adore suivre tes stories. Et toujours pleine de contenu intéressant, comme la bonne formatrice que tu es. Merci, Geneviève, merci beaucoup de ta présence et on se reparle super bientôt sur les internets.
Absolument. Ouais, là.
Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!